Le journal vous est présenté par Catherine Dutu.
Bonsoir à tous. Après les marchés asiatiques, les bourses européennes ont cédé à la panique aujourd'hui sur fond d'inquiétude sur la croissance chinoise et donc sur la conjoncture mondiale. François Hollande et Angela Merkel réclament une réponse unifiée de l'Europe face à la crise des migrants. Le président français et la chancelière allemande se rencontraient aujourd'hui à Berlin. Correspondance à suivre de Cyril Sauvageau. Après l'attentat déjoué dans un Thalys vendredi, la question de la sécurité dans les gares et les trains est soulevée et polémique ce soir avec le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis, qui se défend de proposer des pratiques discriminatoires pour renforcer la sécurité des passagers. La bourse de Francfort dévisse de plus de 4,70%, presque autant à Londres, près de 6% à Milan. Les places financières ont cédé à la panique générale aujourd'hui dans le sillage des marchés asiatiques et sur fond d'inquiétude pour la croissance mondiale. À Paris, l'indice CAC 40 a même temporairement effacé les gains enregistrés depuis le début de l'année, avant de clôturer en baisse de 5,35% à 4383 points. Comment expliquer cette contagion mondiale? L'analyse de Jean-Paul Dessertine, spécialiste de la Chine, fondateur et administrateur de AEC, Asiatique Européenne de Commerce.
Si la bourse chute en Chine, c'est pour des raisons peut-être de spéculation boursière, mais c'est aussi parce que tout le monde est inquiet sur la pérennité de la croissance chinoise et on voit effectivement la baisse de la croissance chinoise a fait baisser le cours des matières premières, que les exportations vers la Chine baissent et donc ça a un impact sur l'ensemble de l'économie et de toutes les entreprises qui sont peu ou liées à la Chine. Parce que la Chine, on ne se rend pas compte, mais c'est devenu un élément très important du marché mondial. Vous avez, la Chine peut représenter entre, 10 et 30 à 40% des chiffres d'affaires d'un certain nombre de secteurs. Si vous prenez le secteur de l'automobile, c'est au moins 10% des ventes d'automobiles se font aujourd'hui en Chine. Si vous prenez le secteur de l'énergie, le secteur des matériaux, de la mécanique, ça peut représenter quelque chose de l'ordre de 30% du marché mondial. Ce qui veut donc dire que toutes les entreprises qui sont peu ou prou liées, ou le luxe également, enfin toutes les sociétés qui sont peu ou prou liées à la Chine, soit qu'elles vendent à la Chine, soit qui sont implantées en Chine et qui se trouvent elles-mêmes impactées par la baisse de la croissance en Chine. Si la Chine entre en récession, non pas si sa croissance tombe de 7 à 6 ou à 5, mais tombe, comme certains analystes le disent, tombe à 2, voire même entre en stagnation, alors là, évidemment, ça va entraîner un effet sur l'ensemble de toutes les économies dans le monde entier.
L'économiste Jean-Paul Dessertine, joint par Anne-Laure Chouin, et l'on vient d'apprendre que Wall Street finissait sur une nouvelle chute, le Dow Jones en baisse de 3,55%, et puis ce soir, par ailleurs, plombé par une nouvelle chute des marchés chinois et des inquiétudes renouvelées sur un éventuel afflux d'or noir iranien, le marché pétrolier a chuté à New York pour terminer pour la première fois depuis 6 ans sous la barre des $40 le baril. De son côté, François Hollande a fait preuve d'optimisme sur l'actuelle crise boursière. Il a estimé que l'économie mondiale était suffisamment solide pour que sa croissance ne soit pas seulement liée à la situation en Chine. Déclaration lors d'une conférence de presse à Berlin. Berlin, où le président français et la chancelière allemande Angela Merkel ont adressé un message commun à l'Europe sur la crise migratoire. Un nombre record de 800 000 demandes d'asile est attendu en Allemagne cette année, des migrants venus des Balkans mais aussi de zones en guerre, en Syrie, en Afghanistan notamment. Depuis le début de l'année, 160 000 personnes sont arrivées sur les îles de la mer Égée en provenance de la Turquie. 2 migrants sont morts, 5 portés disparus après le chavirage de leur embarcation de fortune au large de l'île grecque de Lesbos. Pour Angela Merkel et François Hollande, l'Europe doit donc faire plus vite et plus face à l'ampleur de la crise migratoire. La correspondance à Berlin de Cyril Sauvageau.
Paris et Berlin veulent prendre l'initiative avec une série de mesures nouvelles qui vont être proposées aux Européens. Alors certaines de ces mesures ont déjà été adoptées par les chefs d'État, mais toujours pas appliquées, comme la mise en œuvre des centres d'accueil en Grèce et en Italie pour identifier les demandeurs d'asile et les distinguer des migrants économiques. Il s'agit aussi de faciliter, d'harmoniser les procédures de retour pour les réfugiés refoulés aux portes de l'Europe. La France et l'Allemagne appellent de leur vœu une politique migratoire européenne, avec avec des règles communes pour le droit d'asile et une meilleure répartition des réfugiés en Europe. Un serpent de mer, un projet évoqué depuis longtemps, mais qui semble pour l'instant être une perspective lointaine. En tout cas, François Hollande et Angela Merkel veulent montrer leur volontarisme. Une réunion des ministres de l'Intérieur aura lieu à Paris en octobre. Paris et Berlin vont préparer ensemble le sommet de Malte au mois de novembre, sommet Europe-Afrique, où il sera question de l'aide au développement. Angela Merkel, enfin, a profité de cette conférence de presse pour sortir de son silence et dénoncer fermement les violences qui ont eu lieu ce week-end dans le sud-est de l'Allemagne. Des militants d'extrême droite se sont frottés aux forces de l'ordre aux abords d'un centre d'hébergement pour réfugiés. L'Allemagne, rappelons-le, est en première ligne dans cette crise migratoire. 800 000 demandeurs d'asile sont attendus en Allemagne cette année.
Cyril Sauvageau à Berlin pour France Culture. Quant aux jeunes érythréens hospitalisés à Calais, vraisemblablement frappés par un train ce matin sur le site d'Eurotunnel, son état de santé est ce soir jugé rassurant par la préfecture du Nord-Pas-de-Calais. En Turquie, le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan convoque officiellement des législatives anticipées après l'échec des tractations pour la constitution d'un gouvernement de coalition à l'issue des législatives de juin dernier. Cette nouvelle consultation pourrait se tenir le 1er novembre prochain. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et Washington saluent ce soir l'accord trouvé entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Après un regain de tension ces derniers mois, comme l'exigeait Séoul, la Corée du Nord a accepté d'exprimer ses regrets pour l'explosion d'une mine antipersonnelle à la frontière, une mine qui a mutilé deux soldats sud-coréens. La Corée du Sud s'est, elle, engagée à faire taire ses haut-parleurs qui diffusent à plein volume des messages de propagande à la frontière. François Hollande a décerné la Légion d'honneur aux trois jeunes Américains et aux Britanniques du Thalys Amsterdam Paris, dont, je cite, « le courage a permis de déjouer une attaque à la Kalachnikov », une attaque qui soulève depuis vendredi la question de la sécurité dans les gares et les trains. Ce soir, le secrétaire d'État aux transports se trouve au cœur d'une polémique. Ce qui est vivement critiqué, Frédéric Seyss, ce sont les propos d'Alain Vidalis sur des pratiques discriminatoires pour renforcer la sécurité des passagers.
Oui, ce dont il se défend ce soir, Alain Vidalis a fait parvenir un texte à l'agence France-Presse. Il n'a jamais été question, écrit-il, de prôner la moindre méthode discriminatoire. Mais ce matin sur Europe 1, le propos était plus ambigu. À la question de savoir si la mise en place de fouilles aléatoires dans les trains ne contenait pas le risque d'une discrimination, le secrétaire d'État aux transports avait répondu, je cite, « Moi je préfère qu'on discrimine, effectivement, pour être efficace plutôt que de rester spectateur. » Autrement dit, la discrimination, sous-entendue au faciès, est un risque moins grand que celui de laisser commettre un attentat. Version moderne de Goethe, je préfère une injustice à un désordre. La phrase a été largement commentée, surtout à gauche d'ailleurs. Le porte-parole du Parti communiste, Olivier Dartigol, a estimé que le ministre Vidalis sortait de la République en tenant de tels propos. Au Parti socialiste également, plusieurs députés ont fait part de leur désapprobation. Alors au-delà de l'exégèse des propos d'Alain Vidalis, qui marque, c'est l'emballement général, une classe politique déboussolée après cette tentative d'assassinat. L'outrance verbale tient le de programme et les mots amalgame, discrimination, sont échangés comme des insultes entre les responsables politiques à défaut d'arguments. Autre exemple, Jean-Christophe Cambadélis au PS s'en prend lui à Marine Le Pen. Au pouvoir, d'après lui, elle voudrait expulser 4 millions de musulmans de France. La présidente du Front National a répondu qu'elle ne visait que les extrémistes étrangers, appelant, je cite le patron du PS, à prendre sa pilule de pas d'amalgame. Déraison et paranoïa se feraient donc un chemin de plus en plus large dans le débat public. Ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit où c'est le cas. Cet après-midi, en plein Paris, dans le 11e arrondissement, une quinzaine de véhicules de police ont été déployés, ainsi que 4 camions, dont un blindé de la brigade de recherche et d'intervention. Cela pour traquer un homme armé signalé par ses voisins. Renseignement pris, il ne s'agissait que d'un amateur de fusil à billes qui nettoyait ses instruments. Voilà pour ce qu'il en est du climat actuel, un pas de plus dans cette société de la méfiance généralisée, matinée d'une dose de paranoïa. Et c'est sans doute là la plus grande victoire de cette opération terroriste avortée.
Et deux jours après l'attaque du Thalys, la mosquée d'Auch dans le Gers était détruite par les flammes. Une expertise a établi cet après-midi qu'il s'agissait d'un incendie criminel. À une semaine du retour des élèves et de leurs enseignants dans les classes, le SNUIPP, syndicat majoritaire dans le primaire, faisait aujourd'hui sa conférence de rentrée avec un regret. La priorité à l'école, promesse du candidat Hollande dans la présidentielle, est pour l'instant remisée au placard. Sur les 20 000 postes prévus par la loi sur la refondation de l'école, seuls 9 000 ont été créés. Autre problème, le manque de formation aux nouveaux programmes pour la maternelle, programmes qui doivent entrer en vigueur dès cette rentrée à Kim Kasmi.
Et oui, les nouveaux programmes devaient être lisibles via la plateforme destinée aux enseignants, Canopée. Sauf que depuis début juillet, les textes ne sont toujours pas accessibles et le ministère refuse d'envoyer des versions papier car trop chères. Sébastien Cyr, le secrétaire général du SNIPP.
Là, il y a une vraie défaillance hein, de la part du ministère qui montre bien que cette priorité à l'école primaire, elle est finalement reléguée au second plan, pratiquement mise sous le tapis. Moi, ce que je constate, c'est que le ministère a dégagé quelques moyens pour mettre en œuvre en fait sa grande réforme du collège pour 2016 en finançant 5 jours de formation pendant les vacances en fait pour les professeurs des collèges. Les anciens maternels, eux, ils vont se contenter de 3 heures d'animation pédagogique un mercredi après-midi. Après la mise en œuvre en fait des nouveaux programmes.
Alors, idem pour les nouveaux cours d'enseignement moral et civique qui entreront en vigueur dès la rentrée à partir du primaire. Le SNUPP dénonce aussi les différences salariales avec les professeurs du secondaire, puisque l'écart peut aller jusqu'à 349 euros. Enfin, sachez pour la petite histoire que le ministère, qui craint sans doute une rentrée très tendue, a envoyé un de ses fonctionnaires de la DGESCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, pour espionner la conférence de presse du SNUPP qui n'était destinée qu'aux journalistes, ce qui a provoqué la colère du syndicat, qui a même demandé des explications au cabinet de la ministre, cabinet qui dément, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce fonctionnaire qui était là ce matin était là alors que la conférence de presse de Najat Vallaud-Belkacem aura lieu demain.
Explication signée Hakim Kasmi. Le temps de demain, mardi 25 août, calme et bien ensoleillé dans la moitié sud du pays, encore nuageux et pluvieux dans la moitié nord. Au meilleur de la journée, comptez de 19 à 23 degrés sur le nord, 23 à 28 au sud. C'est la fin de cette édition préparée avec Brice Garcia.